Vous écoutez RCV. 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 Vous écoutez RCV.
Vous êtes bien sur J'enrage, la radio féministe lilloise d'RCV. Aujourd'hui, c'est la troisième émission et au programme du jour, on a prévu d'aborder l'actu féministe, on va dire, qui s'est passé donc quelques polémiques qui a eu lieu ces derniers jours, dernières semaines. Ensuite, on va passer en vue le documentaire qu'on est allé voir avec Zab, qui a ouvert le Festival des Ordres samedi 23 février. La projection était à 20h et c'était la projection d'un documentaire de Virginie Despentes, mutante féministe, féminisme porno-punk, et qui était suivi d'un débat en présence de deux travailleuses du sexe du syndiqué Ostras, Morgane Merteuil et Iris. Et ensuite, après avoir parlé de ça, nous allons accueillir les Sarah des Rencontres Féministes, qui nous parlera précisément du festival des Ordres, dont on aura quelque peu parlé avec ce documentaire. Elle nous dira voilà le programme du festival, pourquoi est-ce que elles ont organisé, pourquoi est-ce que elles sont amenées à organiser ce festival, en quoi il consiste et comment sont nées les Rencontres Féministes. Et enfin, on terminera parler de l'agenda culturel, comme toutes les deux semaines, dire comme ça ce qu'il y a un petit peu à faire ces prochaines semaines. Donc tout de suite, pour commencer avec donc l'actu. Alors en fait, il y avait deux choses dont j'avais particulièrement envie de parler, qui ont retenu pas mal mon attention. La première chose, je renverrai le lien sur l'adresse Facebook de Genrage et sur le webzine directement, puisque là c'est un lien un peu compliqué. Donc en fait, il y a eu une enquête récemment qui a été faite. Sur les nouvelles stratégies politiques des associations anti-IVG. Donc, associations anti-IVG, je ne sais pas si le nom comme Alliance Vita vous dit quelque chose, mais ils ont eu un rôle pas assez important. Ils ont été pas mal au centre de la scène politique des anti-mariages gays cette année. Et en fait, donc, ce qui se passe, c'est que je résume très brièvement pour pas me prolonger. Si vous voulez plus de précisions, vous pourrez aller voir directement sur le lien. Mais en fait, il y a de plusieurs, il y a Julie Charpentras et Isabelle, je regarde le nom, Isabelle Tourne, qui ont fait une enquête sur quel. En fait, au départ, elles se sont dit bon, alors il y avait une d'entre elles qui voulait aller voir comment les délais d'avortement, les informations sur les délais d'avortement, quelles étaient les modalités, etc. Donc elle a tapé IVG sur internet et elle est tombée en fait finalement sur les premiers liens qui n'avaient rien, enfin qui donnaient pas du tout ces informations et qui donnaient des informations très différentes, qui en fait encourageaient. Quand tu allais sur ces liens là il y avait les sites evg.net, ensuite il y a SOS bébé. Et quand t'allais sur le site, tu voyais, elles ont vu en fait que ce qui était davantage mis en avant, c'était les risques liés à l'avortement, c'était les risques psychosomatiques, les risques psychologiques, les risques traumatiques, les risques médicaux, etc. Et j'en passe. En gros, tout ce qui peut contribuer à dissuader une femme d'avorter, en mettant en avant surtout les risques et donc du coup attiser la peur et attiser voilà et surtout un peu réfréner la démarche et non pas mettre en avant tout simplement les dispositions légales qu'une femme peut avoir et puis aussi faciliter l'accès à l'avortement pour les personnes qui s'y intéressent, enfin qui ont envie d'y avoir accès, qui s'y intéressent les deux, mais bon qui s'y intéressent soit théoriquement soit qui en ont tout simplement
qui ont besoin d'y avoir recours.
Voilà. Et bon, très brièvement, en fait, qui m'avait particulièrement frappée, c'est qu'il y avait une fille qui se demandait si elle allait avorter ou pas. En fait, elle se posait la question, donc elle est allée sur ce site-là et elle a été en contact avec une standardiste, parce qu'il y a un standard, il y a un numéro vert, parce que ça se présente aussi comme un site gouvernemental, ce qui est quand même assez problématique. Enfin, vous verrez sur le lien, c'est un peu tout expliqué. Elle a été mise en ligne avec une standardiste qui lui a, on peut dire vraiment, qui l'a complètement dissuadée à avorter, qui l'a vraiment manipulée. Enfin, ce qu'elle raconte dans son témoignage, c'est quand même un peu chaud, quoi. Elle lui dit... Elle fait naître en elle les sentiments maternels, finalement. Enfin, c'est quand même un peu glauque, je trouve, parce que derrière ces sites-là, il y a en fait des associations pro-life qui militent pour essayer que l'accès à l'avortement soit de plus en plus limité. Et du coup, c'est aussi pour ça que les associations féministes doivent toujours se battre pour préserver des droits qu'on a obtenus déjà, des acquis en fait, et qui sont toujours menacés par les associations catholiques. Pas seulement, mais bon, les associations catholiques ont un bon lobbying, notamment au niveau du Conseil européen. Enfin, là aussi, on montre un peu leur stratégie au niveau même juridique et gouvernemental, enfin institutionnel. C'est un peu, ça fait un peu peur, quoi. Parce que du coup, elles, comme ces associations ne peuvent plus directement dire on est contre l'avortement parce que cette stratégie ne marche pas, ils ont d'autres stratégies discursives telles que on est pour la dignité, on est pour la vie, on est pour la dignité humaine, on n'est pas contre l'avortement, mais nous ne sommes pas en faveur de ce choix. Enfin,
bah ça, moi, ça me rappelle la stratégie du mouvement de la manif pour tous de Brigitte Bardot, qui était pas Barjot, pardon, qui était pas contre le mariage pour tous et contre l'égalité, mais justement qui était pour les droits des enfants.
Tout à fait.
Qui défendait l'enfant comme personne et pas comme produit. Enfin, en utilisant justement un discours qui laisse penser que les personnes qui ont recours à l'adoption se penchent dans un supermarché et tout ça des enfants, quoi. Enfin, donc c'est exactement le même genre de stratégie finalement.
Mmh. Ouais, complètement. Ouais, un peu de misérabilisme et d'empathie mal placée, enfin, et puis de manipulation comme ça, discursive, enfin, bref. Mais voilà, donc, alors, et je voulais parler d'un deuxième, cette fois-ci polémique, qui a eu lieu, en fait, il y a l'écrivain, le philosophe, théoricienne, voilà, Marcela Yacoub, qui a publié fin février un ouvrage qui s'appelle La Belle et la Bête. Alors Marcela Yacoub, pour l'introduire un petit peu, en fait, elle est directrice d'études au CNRS et elle a pris des positions depuis déjà quelques années assez problématiques d'un point de vue féministe. Elle s'attire les fourbes de plus pas mal de féministes sans vraiment analyser en détail ses positions, elle a notamment une posture qui consiste à dire que les luttes féministes des années 70 ont contribué à acquérir des droits à criminaliser le viol de façon complètement exagérée. En inversant un peu les positions et en faisant presque de l'homme une victime. Donc évidemment, là, je simplifie énormément son discours parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais je peux pas y passer trop de temps parce qu'ensuite, on n'a pas énormément de temps. Mais vous pouvez aller voir directement donc les ouvrages qu'elle a publiés. Je peux donner les références. C'est Le crime était presque sexuel. Qu'avez-vous fait de la libération sexuelle ? Et donc voilà, elle critique un peu finalement les acquis des luttes féministes des années 70 qui ont conduit à une criminalisation, selon elle, trop extrême, des violences faites aux femmes et qui du coup, place les femmes en victimes et invente presque un traumatisme qui parfois n'a pas lieu d'être. Mais bon, en fait, elle joue un peu la corde provocante, on peut le dire, enfin provocatrice, pardon, pas provocante, parce qu'elle adopte un ton, un ton pas très pas vraiment très scientifique, enfin je sais pas ce que c'est un ton scientifique après tout, mais disons que elle aborde une posture vraiment assez offensive et elle aborde des questions qui sont très très sensibles quand même avec pas beaucoup de pincettes. Et en fait récemment là c'est plus que problématique parce que en gros ce qu'elle a fait c'est que elle a pris position sur par rapport à la polémique Dominique Strauss-Kahn. La polémique par rapport au procès qui a été à l'accusation et à l'inculpation de Dominique Strauss-Kahn pour viol sur Nafissa Toudialo. Elle a dit par rapport à ça, elle a écrit un article dans Libération qui date d'il y a un ou deux mois en disant que finalement Nafissa Toudialo, elle était plutôt chanceuse parce que, après tout, contre une pipe, 100 000 dollars, c'était pas mal. Bon, c'est hyper, je trouve ça complètement révoltant qu'elle ait dit ce genre de propos puisque c'est complètement cautionner les arguments masculinistes et je comprends pas du tout cet argumentaire.
C'est-à-dire, en gros, c'est poser le soupçon sur une plainte pour viol et sur les voilà, sur le traumatisme qu'on pourrait avoir après. Enfin bref, et même sur ensuite les indemnités qu'on a à avoir en retour, etc. Et...
Ouais, enfin de toute façon.
Enfin bref, enfin c'est
un acte de viol et un acte de prostitution n'ont rien à voir.
Oui.
Quelle que soit la rémunération qu'on a derrière ou le d'ailleurs, c'est elle elle appelle ça une rémunération, mais c'est pas de la rémunération.
Oui voilà. Oui c'est ça. T'as raison.
Comment ça s'appelle?
C'est ça que j'ai oublié de préciser.
Une
indemnité.
Une indemnité, pas une rémunération.
Oui, non, mais parce qu'en fait, tu crois pas si bien dire que c'est justement tu.
Voilà.
Oui, voilà, parce qu'en fait, ensuite, elle imagine une société où toutes les femmes. Enfin, en gros, elle fait un parallèle entre viol et prostitution, parce qu'elle imagine une société où toutes les femmes pourraient vendre leur. Enfin, louer leur corps, quoi, et se faire rétribuer. Se faire rétribuer en échange du service sexuel rendu, et donc du coup elle pourra accéder à un certain niveau de richesse qu'elles n'ont pas actuellement, enfin voilà, mais elle est dans une espèce de raisonnement néolibéral qu'elle donc réaffirme par son récent ouvrage La Belle et la Bête, dans lequel elle parle de la relation qu'elle a eue avec Dominique Strauss-Kahn. Donc bon, alors vous imaginez le boom médiatique que ça a fait, hein, elle a eu 4 pages dans Libération, un portrait qui lui a plus ou moins élogieux qui lui a été fait. Ensuite, évidemment, des réactions de la part de Christine Angot, notamment, hein, qui est une écrivaine qui a quand même fait œuvre de l'inceste qu'elle a enduré quand elle était jeune, quand elle était enfant, mais qui fait de la littérature, hein, ça n'est pas... donc du coup qui dit oui, je fais de la littérature moi en gros, et voilà, et en fait bon, il y a eu beaucoup de réactions de part et d'autre, on a mis un lien sur tous ces articles pareil sur le Facebook de Jean Rage, et qui montre que finalement moi j'ai pas lu le livre, hein, mais pour résumer très brièvement, tous les hommes sont des cochons et il faut aussi, enfin, elle manipule.
Il faut profiter de la nature.
Oui, enfin, c'est hyper, enfin, c'est pas très intéressant là comme ça. Je vais peut-être pas m'approfondir très longuement, mais on peut retourner un peu sur vous pourrez un peu vous informer sur ce qu'elle a. Le contenu de cet ouvrage.
Et on vous invite à lire les articles qu'on a mis en ligne sur la page Facebook. Ça.
Ouais, exactement.
Maintenant, on va passer un peu à un petit commentaire qu'on aimerait laisser sur un documentaire qu'on a vu, le documentaire Mutant Féminisme Pornopunk, réalisé par Virginie Despentes, qui a été projeté à l'Hybride le samedi 23 février, lors de l'ouverture du festival Désordre des rencontres féministes. On en parlera après avec Sarah. Donc ce documentaire était relativement intéressant. C'est un documentaire qui en gros présentait un courant qui s'est créé, un courant disons alternatif au courant féministe abolitionniste. Donc c'est des femmes qui dans les années 70,
pro-sex tu veux dire.
Non, c'est en alternative au mouvement abolitionniste.
Ah oui, excuse-moi.
Qui sont des femmes qui avaient eu des expériences de prostitution ou qui avaient eu des expériences dans l'industrie pornographique, qui se retrouvaient donc dans les discours féministes, sauf sur un point, justement, c'était la diabolisation de l'industrie pornographique, qui était une industrie qui était là juste pour servir, enfin qui avait été créée, qui était manipulée, etc., par les hommes. Et du coup, il y avait une sorte de diabolisation de cette industrie et un désir d'abolition de la diffusion des films pornographiques, qui avilissait la femme, etc. Et en même temps, une criminalisation du travail du sexe de manière générale. Et donc comme elles se retrouvaient pas sur ces points-là avec les courants féministes de l'époque, elles ont pas créé un mouvement, mais enfin c'est pas qu'elles ont créé consciemment un mouvement, mais en gros elles ont créé un mouvement
éclaté, quoi, dans le sens où il y a plusieurs
voilà. Et elles ont commencé soit à faire des performances soit donc des performances alternatives justement autour du sexe et en détournant justement les stéréotypes qu'on avait vis-à-vis des films pornographiques ou vis-à-vis du travail du sexe, pour justement montrer une autre image qui était enfin qui était complètement différente de l'image diabolisée qu'en avaient les autres courants féministes. Donc voilà, donc ce documentaire il parlait par exemple de Annie Sprinkle et Béatrice Preciado, qui sont deux figures assez importantes du féminisme, de ces féminismes pro-sexe.
Béatrice Preciado, elle est intervenue plus tard, je crois, mais c'était à propos de, si je me trompe pas, hein. En fait, je crois qu'elle s'exprimait. Elle n'est pas vraiment, parce que Béatrice Preciado, c'est pas une actrice, enfin c'est pas une travailleuse du sexe qui a milité pendant les années 70.
Non, c'est une théoricienne.
Mais une théoricienne qui travaille sur la pensée queer et tout, et donc elle intervenait plutôt dans la deuxième moitié du documentaire, il me semble, si je me rappelle bien.
Oui, c'est ça. Donc voilà, donc justement un documentaire qui montrait à la fois des personnes qui avaient eu des expériences en tant que travailleuse du sexe ou en tant qu'actrice pornographique et des figures importantes du féminisme qui ont pas repensé le féminisme mais qui ont pensé un autre féminisme que le féminisme abolitionniste qui voit l'avilissement de la femme dans toutes les formes de sexualisation de l'image de la femme de manière générale. Donc c'est un documentaire très très intéressant qui était un petit peu brouillon, on en a parlé un petit peu avec Suzanne, parce que c'est vrai que les transitions entre entretien avec une actrice porno, entretien avec une théoricienne ou même entre, il y avait des espèces de phases dans le documentaire mais les transitions étaient un peu brouillons. Mais moi je trouvais que c'était à l'image de l'atmosphère punk dont le documentaire était empreint. Je sais pas ce que t'en pensais.
Ouais, non, c'est clair. Oui, c'est vrai. Non, mais si, c'est parce que c'était pas
construit, en fait.
Non, ça avait pas l'air vraiment très construit. C'était assez chronologique. Elle partait vraiment du mouvement pro-sexe aux États-Unis qui est né dans les années 70 pour ensuite faire migrer sa caméra en Espagne et là cette fois-ci aborder plus la réappropriation
du corps
par les mouvements notamment trans, queer voir un peu toutes les performances, les propositions de performance qu'il y avait
actuelles, c'était quand même
pas mal en Espagne
parce que
c'était vraiment intéressant, ouais.
C'était chronologique mais il y avait quand même un regard sur le paysage
d'aujourd'hui. Mais le contenu était super intéressant, ouais. En fait, franchement.
Et il y a eu une rencontre avec deux personnes faisant partie du STRAS à la fin de la projection. Donc Morgan Merteuil qui était déjà intervenu il y a un mois à peu près lors d'une présentation de son bouquin Libérer le féminisme. Et une autre personne qui est ancienne actrice pornographique qui s'appelle Iris, qui était d'ailleurs qui fait partie de du casting du documentaire de comment elle s'appelle. Le documentaire qu'on a vu à Chez Violette.
C'est Too Much Pussy, voilà, le titre, mais j'ai un truc mémoire sur le nom de la réalisatrice. C'est avec notamment Wendy Delorme, dedans, mais j'ai un truc de mémoire sur la Claire. Non, bref, tant pis.
C'est pas grave. Et du coup, c'était vachement intéressant aussi d'avoir un débat avec des personnes qui soit sont en contact direct, soit sont travailleuses du sexe elles-mêmes, juste après ce film qui montrait en image aussi une autre image justement de ces services là.
Ouais.
Et voilà. Donc on a aimé l'ouverture du festival avec ce documentaire. On va vous mettre une petite chanson maintenant, Delta 5, Mind Your Business, et on passera à l'entretien avec Sarah des Rencontres Féministes.
Thank you. Bonsoir, donc vous êtes bien sur Jean Rage. Comme prévu, aujourd'hui on rencontre Sarah des Rencontres Féministes. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc Sarah, tu vas nous parler un petit peu de votre association, les Rencontres Féministes, qui donc, a été créée en mars 2010, et du festival que vous allez organiser, qui est donc le festival Désordre, et qui a lieu en mars, avril. Donc nous parler un peu de ce festival. Nous dire pourquoi, enfin qu'est-ce que vous organisez là, quel type d'événement, quel type de féminisme aussi vous promouvez, etc. Donc voilà, on va peut-être commencer par
une première question sur comment vous avez créé l'asso, comment l'idée vous est venue et comment vous avez réussi à la mettre en place.
Alors en fait, on est plusieurs copines. À l'origine, on est plusieurs copines qui ont traversé un engagement féministe dans des groupes qui ont plus ou moins continué à exister ou pas. Enfin voilà, mais en tout cas, on a traversé pas mal de courants et pas mal de groupes et pas mal de luttes ensemble. Et un autre point commun qu'on avait, c'était que on avait toutes, via notre travail ou via nos loisirs ou notre pratique, un lien avec l'artistique. Cécile, par exemple, elle est diplômée de l'École des Beaux-Arts. Moi, j'ai fait du théâtre. Florie, qui était aussi à l'origine de l'asso, elle a aussi beaucoup pratiqué du théâtre et de la mise en scène. Et en fait, on avait envie, via notre asso, de créer un événement ou plusieurs événements qui arrivait à faire se croiser les thématiques féministes, les thématiques de lutte et l'art en général. Donc en fait au départ on était dans une idée où on n'avait pas du tout justement conscience de l'ampleur que ça allait finir par prendre. Au début on était vraiment dans une idée par exemple de faire un petit week-end ou avec par exemple un atelier, une soirée, un débat. Et dans un lieu voilà, qui aurait accepté de nous accueillir, donc je sais pas, un squat ou un lieu comme le CCL qu'on a pas mal fréquenté aussi. Et en fait, au fur et à mesure du projet, on a commencé à en parler autour de nous, à nos amis artistes. Du coup, ça a fait un peu boule de neige et c'est devenu le projet Désordre 2011, qui finalement était un événement qui s'est déployé sur presque 2 mois dans des salles. Qui avait du coup une ampleur artistique et publique et qui nous a un peu dépassé, mais du coup on s'est complètement investi dedans et c'est devenu un festival sur un mois où il y avait plusieurs week-ends de spectacles, il y avait une exposition de photographie et de vidéos et d'installations plastiques pendant tout un mois à la Maison Folie Oisem qui a intéressé énormément de gens. Il y a eu du coup des débats, des ateliers sur toute cette période-là aussi. On a fait aussi une soirée à Bruxelles parce qu'on a été invité par un théâtre qui travaillait sur ces thématiques de genre aussi au même moment que nous. Et du coup, il y a eu un peu un agrégat de choses où du coup, on est aussi arrivé à un moment où j'ai l'impression, en tout cas, dans le milieu militant lillois et en général dans le milieu artistique, les questions de genre commençaient à se poser d'une manière plus peut-être plus concrète aussi, où du coup les événements commençaient à se multiplier sur ces thématiques-là, et où nous on a un peu, je sais pas si on a été inspiratrice du truc, mais en tout cas on a vraiment accroché cette vague-là et on a vraiment pu se déployer aussi parce que ces thématiques-là étaient audibles à ce moment-là, quoi. Mm-hmm.
Oui, vous êtes vraiment arrivé au bon moment, j'ai l'impression. Au moment où il y avait de la demande, vous avez donné l'offre, quoi. Et du coup, ça a vraiment.
Bah, il y a une synergie comme ça. Ouais. Où, voilà, en fait, on a commencé par rédiger un petit appel à projet en disant voilà, on avait une vague idée de la période à laquelle on voulait que ça se passe. Donc, c'était février-mars 2011, parce qu'au départ, c'était aussi une manière de proposer un contre-événement à la journée de la femme. Parce qu'à Lille et dans la métropole, il y a des événements qui sont organisés tous les ans autour de ça. C'est des choses assez consensuelles, où il n'y a pas beaucoup de participation des assos et des collectifs. Et où, en général, les groupes politiques sont assez frileux parce que c'est un événement super institutionnel. Et du coup, nous, on voulait être présentes à cette date-là, sans s'intégrer dans ces événements institutionnels, mais en proposant autre chose, justement. Et du coup, quand on a balancé l'appel à projet, au départ, voilà, nos copains artistes, sur notre blog qui était tout petit à l'époque... En fait, le projet a énormément circulé. Et du coup, on s'est retrouvé avec des propositions artistiques super intéressantes, mais plus lourdes que ce qu'on avait imaginé, ce qui du coup impliquait de trouver des lieux d'accueil capables de les recevoir, comme la Maison Folie, comme le Théâtre de l'Oiseau Mouche à Roubaix, enfin... Et voilà, et du coup, c'est devenu quelque chose de qui est vraiment, enfin, c'est vraiment devenu un événement culturel assez assez important, quoi. Et à la suite de ça, enfin, nous, on a fait énormément de rencontres pendant toute la période de construction du projet, et on s'est dit ce qui est vraiment, enfin, ce qui serait important, ce qu'on aimerait réussir à faire pendant cet événement, c'est que toutes ces rencontres trouvent un lieu d'expression, que ce soit pas juste les artistes entre eux, les militants et les militantes entre elles et eux, les assos entre elles et eux, enfin, et que ce soit vraiment qu'on arrive à créer des moments de synergie entre tous ces collectifs, entre toutes ces paroles, entre toutes ces écoles différentes de pensée aussi des fois, ou de lutte, et de créer des moments et des espaces où ça puisse s'exprimer, en fait. Et plus, à la limite, même plus que d'organiser ou de programmer des spectacles, c'était vraiment cet objectif-là qu'on avait au début, quoi. Et qui s'est réalisé, enfin, je pense qu'on a atteint cet objectif-là à la fin du mois et demi du premier désordre. On s'est vraiment rendu compte que, oui, on avait réussi, par exemple, à la fin de chaque spectacle, nous, enfin, c'était vraiment un objectif qu'on voulait et un truc qu'on continue à porter cette année. C'est de pas laisser, enfin, de proposer quelque chose et ensuite de pas laisser les gens s'en aller avec l'idée du spectacle qu'ils ont vu, ou de la projection qu'ils ont vue, ou de la rencontre qu'ils ont vécue. Pouvoir, à l'issue de ça, avoir un espace où échanger et où réussir à faire quelque chose de ce que tu as engrangé par rapport à ta vision d'un spectacle. Ou...
D'accord. Et justement, pourquoi le lien entre art et politique et lutte politique ? Est-ce que, maintenant, d'après l'expérience de votre association, peut-être déjà au départ, pourquoi cette idée-là et ensuite, après avoir expérimenté le fait de mettre... je sais pas, sur le devant de la scène, des pratiques artistiques assez diverses. Mmh. Est-ce que vraiment les gens là, les spectateurs, spectatrices, répondent de quelle manière en fait à ces propositions plastiques? Est-ce que ça questionne vraiment le politique? C'est ça que je voudrais.
Ouais, en fait, tout ça c'est enfin. C'est un accompagnement, et en fait ce que j'essayais de dire c'était ça, c'était voilà, il y a une proposition artistique, on n'a pas forcément les mêmes clés pour comprendre cette proposition, mm-hmm. Donc il y en a qui verront justement le côté plastique, performance, il y a d'autres personnes qui seront hyper sensibles au contenu politique et tout ça, et l'idée c'est vraiment de, justement par l'accompagnement, par l'organisation de débats, de rencontres, et par vraiment l'accompagnement du public en général et des publics, réussir justement à ce que ça devienne réalité, quoi. À ce que ce spectacle-là, ce soit en soi un objet intéressant, mais aussi une base de questionnement et de recherche sur le genre, sur le féminisme, sur la sexualité, sur l'homosexualité, sur l'homophobie, sur toutes ces questions-là, quoi.
On va vous mettre une petite chanson, on revient tout de suite, on va vous mettre Horses de Patti Smith. Nous sommes de retour avec Sarah. Puisqu'on est dans le politique, une petite question qui concerne la ligne politique du festival et de votre association de manière plus générale. Dans le festival Désordre de cette année, donc 2013, vous avez organisé une projection d'un documentaire de Virginie Despentes qui s'appelle Mutante, qui est donc un documentaire pro-sexe. Et vous avez des ateliers tels que l'atelier Chette à modeler, qui sont des manifestations assez subversives, ou en tout cas pas très mainstream, comme j'avais dit. C'est quoi exactement votre ligne politique et qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ces ateliers-là et pas d'autres, par exemple ?
Et en fait, le point de départ de tout ça, c'est de partir d'une idée du féminisme qui soit pas cloisonné. Et nous, notre vision, enfin notre mode de lutte et notre mode de conception du féminisme, c'est un féminisme matérialiste, donc social, donc qui est basé sur la conception des rapports de domination homme-femme et d'un genre sur l'autre. Et du coup, une fois qu'on a dit ça, l'idée, c'est bien sûr d'essayer de retourner ce principe-là, d'expérimenter des choses qui permettent aussi de se réapproprier des thématiques qui sont spoliées en général. Et par exemple, sur l'idée du féminisme pro-sexe, tout le courant féminisme pro-sexe qui vient des États-Unis et qui est un peu lié aussi à l'émergence du mouvement queer, c'est de pas se laisser déposséder son corps. Et l'idée aussi que le corps, ça peut être une arme de lutte et que le plaisir sexuel, ça peut aussi être une arme de lutte. Et en France, enfin, je vais dire un peu des généralités, mais parce que voilà, mais en France, il y a un courant abolitionniste au niveau de la prostitution qui est très fort. Il y a un courant anti-pornographie qui est très fort aussi. Aux États-Unis, du coup, il y a ce mouvement qui a quand même eu un certain écho. On entend assez peu parler ici. Et l'idée, c'était de proposer cette vision-là, sans pour autant faire du prosélytisme, parce que chacun pense ce qu'il veut. Mm-hmm. Mais de montrer que ça peut exister et que les prostituées sont pas toutes des victimes et que la pornographie c'est pas forcément un outil de domination si on sait s'en servir aussi. Enfin voilà, c'est aussi de montrer qu'il y a plein de manières différentes de s'approprier. La lutte féministe, et quand tu parles des ateliers Chat à modeler, c'est aussi dans ce lien, enfin c'est aussi en lien avec ça, dans le sens où du coup le côté réappropriation de son corps, connaissance de son corps, c'est un outil qui est ultra important pour plein de femmes et qui est à l'origine aussi des mouvements des années 70, enfin où les femmes se regardaient le vagin parce que jamais elles avaient pensé que ça pouvait leur appartenir, enfin, et l'idée de par exemple se réapproprier ce truc là, ça montre que c'est pas juste quelque chose qui peut être moqué ou qui peut être comment dire. Enfin, dominer, c'est aussi quelque chose qui peut être un outil de plaisir, de joie, de voilà. Et cet atelier Chat à modeler, je pense que ça va être un atelier très rigolo où on va apprendre voilà comment on est faite et comment des fois on n'est pas faite et comment on aimerait être faite et machin. Mais où c'est un moment collectif où on apprendra à dédramatiser, à désacraliser tout ça aussi quoi. Et je pense que ça c'est important, c'est un des objectifs aussi de ce qu'on essaye de faire à Rencontre Féministe, c'est de proposer des moments de réflexion, des moments politiques, voilà, tout ça c'est très sérieux, mais il y a aussi une part de ludique et une part de réappropriation qui doit et qui peut être joyeuse pour que ça se passe bien aussi et qu'on en retire du pouvoir sur nous-mêmes et voilà, enfin du coup c'est un peu cette idée-là qu'on essaye de mettre en place à travers ce qu'on fait en général, c'est d'avoir voilà un équilibre, de trouver un équilibre entre la réflexion, le travail militant et l'art, la beauté, la joie, enfin voilà, de réussir à faire que tout ça se mélange et que ce soit aussi des moments conviviaux et des moments d'apprentissage qui soient drôles et enfin voilà.
Et donc je précise, l'atelier Chat à modeler, il a eu lieu il y a 2 jours, donc le 2 mars. Et sinon, j'ai une question par rapport à cette question de féminisme pro-sexe et de réappropriation du corps, du plaisir, de découverte du plaisir. Par exemple, pour l'atelier Chat à modeler, si je me souviens bien, il était question du point G aussi, redécouvrir son point G, qui est le point G existe. Je suis plus bien sûre de ça, mais en tout cas j'ai une question par rapport à ça, parce que le féminisme pro-sexe est quand même lié, comme tu as dit, à l'émergence du mouvement queer, enfin à la pensée queer. Mm-hmm. Et il y a, disons, peut-être des points de dissonance entre féminisme matérialiste et pensée ou mouvement queer, dans la mesure où le mouvement queer se situe aussi dans l'idée d'une déconstruction un peu de la catégorie femme et donc de la homogénéité.
Ça dépasse un peu
cette lutte-là. Ouais, ouais. Du coup, vous, est-ce que vous, votre objectif, c'est de... À la limite, vous pouvez tout à fait montrer des pratiques qui montrent la pluralité du féminisme. Mais je cite comme ça un peu les événements que vous avez prévus, dont certains sont non mixtes. Vous avez notamment de prévu... un atelier de self-défense le 16 mars de Femme Dochi, proposé par l'association Faire Face. Ensuite, il y a un groupe de parole sur l'éducation sexuelle prévu pour le 20 mars à 19h au local de Parlons d'Avenir à Oisem, et le 21 mars à 19h au local de chez Violette à Lille-Moulin. Et enfin, un atelier images et écriture qui est prévu le 16 mars de 14h à 18h Et l'ensemble de ces événements sont donc non mixtes, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, ils accueillent des femmes. Mmh. À côté de ça, vous avez donc des événements, donc mon chat à modé, c'est également féministe, c'est également, pardon, non mixte, qu'est-ce que je veux dire ? Oui, voilà, Mutante, qui est donc liée à la mouvance queer, de même votre concert, enfin le concert que vous avez des Kings Queen.
Queer, c'était la soirée de soutien du festival, en fait.
Voilà, ouais. C'est ça. Mmh. Donc, est-ce que vous assumez totalement cet éclatement, on va dire, des luttes ? Quand je dis éclatement, c'est pas nécessairement négatif, ouais. Mais voilà.
Bah oui, en fait, l'idée, c'est d'être un peu un... Enfin, je vais pas... On n'a pas non plus une ambition complètement universaliste, mais l'idée, c'est un peu de... Voilà, nous, on est traversés dans notre lutte et dans les parcours qu'on a eus et par les rencontres qu'on fait aussi... par exemple le mouvement queer dont moi je suis pas par exemple une représentante mais n'empêche que je trouve ça hyper intéressant dans ce que ça ouvre comme chamboulement total des catégories sexuées comme remise à niveau de la construction sociale du genre tout ça, enfin c'est super intéressant et notamment via l'exposition via certains spectacles, c'est quelque chose qu'on questionne vraiment, enfin qui nous intéresse énormément, quoi.
D'accord.
Et donc l'idée, c'est vraiment de effectivement de proposer une pluralité, quand tu disais éclatement, une pluralité de points de vue et de manières d'envisager les luttes, mais justement de faire que ces pluralités, même si elles tombent, enfin l'idée, c'est pas de faire une homogénéité de tout ça, c'est juste de permettre le dialogue entre tout ça, justement. Et du coup, c'est pas... Enfin, nous, on ne vit pas comme un truc de dispersion. On vit vraiment comme des moments... Il y a des propositions qui sont non mixtes parce que ça nous semble nécessaire aussi que les femmes prennent le temps de se retrouver entre elles, d'expérimenter des choses. Et les questions de défense, les questions d'intimité, c'est quelque chose qui, en mixité, qui serait pas possible, je pense. Après, la majorité de ce qu'on fait est public, est vraiment public. Et c'est aussi dans ces moments-là que se mélangent les points de vue et que l'équilibre se fait, je pense. Enfin, voilà, entre la mixité, la non-mixité, les différents courants féministes et tout ça.
Oui, donc il y a certains événements que vous avez déjà programmés, je pense, lors du premier festival. Je ne sais plus lesquels exactement... Je pense celui de la performance de Pauline Brott et Emily Combé.
En fait, c'était pas dans le premier désordre, c'était une étape. Ça va être la version originale et longue. Et okay. En fait, on avait programmé une version plus courte l'année dernière. Donc, c'était pas désordre, c'était un événement qu'on a fait au théâtre Massenet,
okay.
Qui s'appelait Modèle en désordre, et où l'idée c'était de présenter des formes courtes de manière un peu plus légère et souple, qui s'enchaînaient sur plusieurs soirées en fait. Mm-hmm. Et du coup, ces filles avaient répondu à notre appel à projet, on avait trouvé ça génial. Et comme l'année dernière, on n'avait pas eu l'occasion, ni le temps ni la place, de leur donner une vraie scène et du temps pour jouer l'entièreté de la performance, on les a invitées à venir cette année pour qu'elles aient l'occasion de le faire.
Et donc, ce Festival des Ordres, est-ce que c'est quelque chose que vous voulez faire tous les ans ? Ou celui-ci, il doit être considéré comme une sorte d'écho au premier, que vous n'avez peut-être pas trouvé, fini, c'est-à-dire que vous n'aviez pas assez de moyens ou vous n'aviez pas pensé que ça allait prendre cette envergure, du coup vous avez pensé à voir comme un agrandissement de la première chose que vous aviez faite ?
Bah, en fait, c'est plus au départ, le premier désordre, c'était vraiment, on n'avait pas du tout, comme je vous disais au début, on n'avait même pas idée que ça allait durer un mois. Au départ, on disait, bon, une soirée au CCL, ça sera déjà bien, quoi. Enfin, et on s'est rendu compte que l'appel à projet, on avait dû sélectionner des choses et qu'on avait laissé. Des tas de propositions super intéressantes de côté parce qu'on pouvait pas les intégrer. Ensuite, on a eu vachement de sollicitations aussi après la première, après la clôture du premier festival. Il y a eu divers assos. Donc l'année dernière, on a travaillé avec Massenet, avec L'Entorse. C'est des associations qui nous ont contactés après Désordre 2011 en nous disant cette thématique, ça nous intéresse. On a l'impression que vous avez trouvé une manière de l'aborder. Est-ce qu'on pourrait pas travailler là-dessus ensemble sur tel truc ? Donc avec L'Entorse, par exemple, c'était le féminisme dans le sport. On n'avait jamais aborder cette question, et eux qui sont une asso à thématique sport et art, et nous qui sommes une asso féministe, comment est-ce qu'on peut créer quelque chose ensemble, enfin, et du coup ça crée une richesse aussi, ça crée d'autres rencontres, et du coup la demande fait qu'effectivement on avait des tas d'opportunités, des tas de propositions artistiques et politiques super intéressantes, Et on s'est dit, bah voilà, il faudrait qu'on fasse une deuxième édition. Après, effectivement, tu parlais de moyens. Faire un événement comme ça, ça coûte très cher. Parce que les artistes et les intervenants, ils sont tous rémunérés. Nous, on est une asso, voilà, on travaille bénévolement depuis 3 ans pour réussir à organiser tout ça. Et on compte du coup sur un soutien financier public. Donc on est soutenu par la région, par la ville, par les salles qui nous accueillent, voilà. Et du coup, effectivement, on est dépendant de financièrement d'un certain nombre de choses. Et effectivement, à savoir comment le festival il va réagir aux modifications de l'équipe, aux problèmes d'argent qu'on peut avoir, enfin voilà. Et du coup, peut-être, pourquoi pas se réinventer sous d'autres formes plus tard. Après, on n'est pas sûr à 100% qu'on va faire une édition tous les 2 ans. On ne sait pas si matériellement on en a la possibilité, mais l'idée, c'est de continuer à créer des événements autour de ces thématiques-là, de réagir à des propositions. Enfin, c'est pas fermé du tout, en fait.
Ok. Juste avant de passer à un petit morceau de musique, peut-être, est-ce que tu pourrais nous expliquer pourquoi vous avez appelé le festival Désordre ?
Bah justement, en fait, on avait beaucoup de mal à trouver un nom pour ce festival et c'était une sorte de blague, quoi, parce que en fait, on était là avec 12 000 dossiers, plein d'idées, plein de trucs, pas de sous, pas de... Voilà, on était complètement submergés par le truc et on s'est dit, c'est vraiment un gros bordel qu'on est en train de faire, on est en train de faire un gros désordre, on sait pas du tout comment ça va réagir, comment les trucs vont interagir entre eux et tout, mais n'empêche que c'est cette forme-là qu'on a envie de donner, c'est un truc complètement indéfini, mouvant, et on trouvait que désordre c'était... Et puis voilà, il y a aussi tous ces slogans, nos désirs font désordre, l'ordre moral, enfin voilà, et du coup, sur une simple, ça sonnait vachement bien, c'était, politiquement, c'était, ça claquait, quoi, ça correspondait à ce qu'on voulait faire, et sur l'organisation qu'on était en train d'avoir, ça correspondait aussi, parce que, voilà, plein de formes artistiques, plein de rencontres, plein de personnes différentes, voilà.
Donc un nom à l'image de votre festival.
Ben je pense, ouais. Enfin, en tout cas, on essaye de faire ça, ouais.
D'accord. Bon, on vous propose de faire une petite pause avec Patrick chance. Wolf, The Libertine. À tout de suite.
I've got to go. So here I addiction. So I've got to go, I've got to go. So here I go, I'm gonna run the risk of being free, being free, being free, being free. And in this drought of truth and invention, whoever shouts the loudest gets the most attention.
C'était Patrick Wolf, The Libertine. Sarah, donc tu nous as un peu présenté du coup le Festival des Ordres. On va peut-être aller du coup bien dans les événements pour que tu nous parles. Peut-être on va sélectionner quelques événements qu'on a particulièrement remarqués ou que toi tu as envie de souligner plus particulièrement et qu'on voit ce dont ça parle, les questions que ça soulève, les thématiques que ces événements abordent. Moi je voulais parler de ce qui m'a pas mal intéressé, c'était l'atelier de self d'autodéfense féministe qui est organisé le 16 mars, qui est proposé par l'association Faire Face et qui a lieu, donc il y a une séance à Lille et une autre à Roubaix. Et donc le nom de cette autodéfense, enfin le type d'autodéfense que c'est donc le femdochi. Déjà, est-ce que tu peux nous expliquer peut-être pas forcément ce que le femdochi est, mais ou alors le principe de l'autodéfense féministe.
Ouais. Bah en fait nous on avait en fait en 2011 on avait invité une asso qui s'appelle Garance et qui organise aussi des stages d'autodéfense, qui est une asso à Bruxelles. Et en fait, ça avait eu un écho hyper intéressant, hyper important et tout. Et du coup, on s'est dit, voilà, on a envie de proposer ça régulièrement. Et du coup, peut-être d'inviter d'autres assos qui ont d'autres pratiques. Parce qu'en gros, voilà, elles se garantent et faire face, elles se rejoignent sur les objectifs. Enfin, c'est-à-dire, l'autodéfense féministe, c'est pas un art martial bourrin, c'est pas de la boxe, quoi. Enfin, c'est vraiment un positionnement, une prise de conscience déjà des risques qu'on vit en tant que femme socialement, parce que parfois on a tendance à, je sais pas, ou soit à les surévaluer, soit à les sous-évaluer, soit à pas les voir tels qu'ils sont, ou machin. Du coup, il y a une grande part de prise de conscience politique dans cette forme d'autodéfense. Et aussi une prise en compte des réalités physiques de chacune, en fait. Donc, c'est pour ça que je dis que c'est pas un art martial technique et olympique, ou qui demande de la force ou qui demande de la technique. C'est une pratique de défense et de promotion de soi-même aussi un peu, en fait.
Adapté finalement
au corps de chacune,
au vécu de chacun,
exactement, de chacune, aux peurs qu'on peut avoir qui sont pas forcément les mêmes. Et donc ça comporte une partie de discussion qui est vachement importante, qui est à la base de l'atelier. Et ensuite, effectivement, il y a une mise en pratique avec des petits gestes, avec des trucs tout bêtes, pas du tout tout bête, mais justement auxquels on pense pas. Par exemple, il y a une posture à avoir dans la rue, pourquoi les mecs ont une posture d'aisance dans la rue, pourquoi les femmes ont une posture refermée sur elles-mêmes, qu'est-ce que du coup ça implique dans les relations de violence, dans comment on réagit à la violence, tout ça. Enfin, ça c'est vraiment faire face, c'est une asso qui travaille énormément là-dessus, qui organise aussi des débats, et du coup elle propose un atelier, enfin deux ateliers à Lille et à Roubaix, et on les invite aussi à une discussion sur les violences sexistes dans laquelle sera présente l'Échappée, qui est une asso qui travaille aussi sur ces questions-là. Et du coup l'idée c'est de proposer un moment comme ça de réappropriation, ça tient aussi à la réappropriation de son image et de son corps, quoi. Enfin, c'est pas juste un échange de techniques, ça va plus loin que ça.
Est-ce que l'un des objectifs de l'autodéfense féministe, c'est de pouvoir, dans une situation donnée, repérer une situation inacceptable et y répondre, inacceptable parce que sexiste, et donc y répondre. Est-ce que c'est en gros augmenter ses capacités de réponse et de ouais. et d'offense, enfin pas nécessairement d'offensive parce que finalement c'est une réaction de défense, c'est-à-dire que c'est pas
offensif justement.
D'accord.
Ouais. Et du coup oui, c'est vachement juste ce que tu dis parce que c'est ça, c'est comment analyser, ça t'apprend aussi à analyser les situations dans lesquelles tu te retrouves. Et à les décortiquer aussi, à ouais. comprendre pourquoi elles arrivent, ouais. Pourquoi elles t'arrivent à toi à ce moment-là, ouais. comment est-ce que du coup tu peux réagir de manière adaptée, tout ça.
À identifier qu'est-ce qu'une, ouais. Qu'est-ce peut-être une parole, un comportement sexiste, parce que souvent, moi j'ai l'impression, là je parle en mon nom, mais j'ai l'impression qu'on a tendance à ramener les comportements de tel ou tel mec à la perversité, on dit c'est un pervers,
ouais.
moi je préfère employer le terme de sexiste, parce que pervers renvoie directement à la folie, à quelque chose que du coup sur lequel on ne peut pas véritablement condamner, ouais, ouais. sur lequel on ne peut pas avoir de prise, ouais. et qui n'est pas du coup social, enfin qui n'est pas social, qui est c'est quelqu'un de bizarre, on le renvoie ouais. à l'asile quoi, et je trouve ça important de mettre des mots féministes sur des attitudes qui sont finalement socialement
ouais bah c'est remettre du social dans tout ça, pas se dire je suis victime d'agression parce que je suis faible et parce que je suis tombée sur un con ou parce que machin, enfin c'est aussi vrai, mais c'est aussi effectivement quelque chose qui socialement est installé, et c'est aussi pour ça que les femmes en sont plus victimes, c'est pas parce qu'elles sont plus faibles ou plus bêtes quoi, c'est parce que le système est complètement renversé et elles sont dans un rapport de domination que parfois elles perçoivent pas, et que du coup ce genre d'atelier permet aussi de modéliser de manière simple, enfin voilà.
Oh ouais, j'étais en train de penser carrément à ce que vous étiez en train de dire, j'étais là. moi il y a plus particulièrement une ouverture que vous avez dans celui-là qui avait déjà eu dans l'autre, mais qui était moins réflexive je pense vu qu'elle était liée à la pratique, une ouverture aux enfants en fait dans ce festival-là,
ouais.
Donc quand je dis à la pratique c'est parce que l'année dernière il y avait un atelier, non c'était pas un atelier, c'était une séance de sport, c'était du
en fait il y avait eu pendant plusieurs mois à l'île sud un éducateur qui fait partie de notre asso, un éducateur sportif, qui a organisé des séances pour les filles,
voilà, c'est ça.
De hockey sur gazon, qui est un sport, une image assez bourrine et masculine d'un sport qui en fait est hyper rigolo et complètement accessible aux filles. Et en fait, à l'issue de quelques mois de pratique, on a organisé un tournoi à l'issue où il n'y avait que des petites filles qui jouaient. Et effectivement, ça nous a donné envie de faire... parce que voilà, le féminisme, c'est vachement une question d'éducation, de pédagogie.
Carrément,
aussi.
Ouais.
Et ça commence dès le plus jeune âge. Enfin, c'est un peu con comme expression. Mais voilà, il y avait vraiment une idée de... on n'a pas forcément... on n'est pas forcément des... Justement, on n'est pas forcément éducatrice ou instit ou machin. Mais peut-être qu'on peut mettre en place des outils ou proposer des outils à destination des plus jeunes dans ce qu'on organise. Et du coup, l'idée de travailler sur le compte... et de créer du coup des moments où les adultes peuvent aussi être là, et enfin voilà, c'était lié vachement à ça aussi, à comment est-ce qu'on on adapte un peu notre fonctionnement et les idées qu'on défend à tous les publics, même aux enfants.
Puis là, je pense que ça touche aussi finalement le public, disons, enfin, de la famille. Parce que
oui,
c'est vrai
voilà,
que
les parents aussi, quoi.
Et généralement, ouais, quand ouais. t'as des enfants, et tu vas peut-être pas ce genre de truc, j'en sais rien, je sais pas, votre public, à mon avis, il est plutôt
C'est pas un public super familial.
Il est entre 20 et 35 ans, peut-être, j'en sais rien, et voilà, c'est ça.
Oui, carrément, ouais.
Et de conscientiser peut-être les parents aussi, finalement.
Bah oui, de passer par ça pour un biais qu'ils peuvent réutiliser, des bouquins jeunesse. Voilà, c'est une manière... de faire rentrer le féminisme chez les gens, quoi. Enfin,
il y a de plus en plus de réflexions en plus autour de ça, je trouve, autour de justement comment choisir des livres et pas donner n'importe quoi à lire et pas créer n'importe quoi aussi, pas créer des livres pour des enfants de 5 ans qui recréent exactement, qui recréent déjà des stéréotypes qui vont appliquer à leurs 5 ans dans leurs réseaux sociaux à 5 ans qui n'existaient pas avant en plus. Du coup, je trouve que c'est un atelier particulièrement intéressant. Suzanne, je ne sais pas si tu as d'autres questions.
Je voulais peut-être donner une information, parce que quand on parlait d'autodéfense, une référence qui est sympa sur le net à trouver, sur le site des éditions Zone. En fait, c'est un site qui... c'est une maison d'édition qui donne en ligne des ouvrages complets, enfin que vous pouvez lire en ligne directement, gratuitement quoi. Et il y a notamment en ligne un livre de Irène Zellinger.
Mais elle fait partie de la Sogarance qui organise les
ateliers
qu'on avait invité.
Ah bah formidable.
Mais du coup voilà, on le connaît, mais ce bouquin est vachement bien. Ouais.
Et ben voilà, je vous encourage du coup à vraiment aller sur ce site et jeter un coup d'œil, et je trouvais ça vraiment intéressant. Le titre du bouquin, c'est Non c'est non, petit manuel d'autodéfense à l'usage de toutes les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien dire. Et donc l'adresse du site, c'est www.edition-zone.fr. Voilà.
Okay. J'ai juste une dernière petite question du coup.
Vas-y.
C'est au sujet de la soirée de clôture.
Ouais.
Donc il y aura lieu le 30 mars à 20h, qui est une soirée autour du slam finalement. Mmh. Vous invitez trois slameuses.
Ouais.
Qui ont, si je me souviens bien, parce que Camille nous en avait parlé, qui aborde des féminismes différents et qui l'aborde via le slam. Mmh. Est-ce que c'est une façon pour vous finalement de faire écho à justement ce désir de, ben, justement de visibiliser tous ces féminismes et pas un seul? Mmh. Et pourquoi le slam? Est-ce que c'est un support qui vous paraît intéressant parce que c'est un support justement nouveau aussi, assez récent ou...
Ouais, enfin, il y a l'idée de... Ouais, c'est trois personnalités, donc c'est des textes qu'elles ont écrits, mm-hmm. Ces trois slameuses qui travaillent ensemble dans le cadre des encombrantes et qui font aussi des choses indépendamment et qui ont effectivement pas le même vécu, pas les mêmes luttes et pas les mêmes orientations politiques, mais qui se retrouvent sur un peu les mêmes, la même manière de travailler que nous, en fait. Enfin, du coup, c'est vrai que on peut y voir un peu un écho à ce qu'on essaye de faire dans la mise en réseau de tous ces féminismes et de toutes ces manières de lutter. Après, le spectacle, c'est un très très beau spectacle. Enfin, moi, je l'avais déjà vu à l'Oiseau Mouche il y a 2 ans, je crois. Et le slam, effectivement, c'est une parole qui est à la fois poétique et hyper politique parce que y a un peu un côté slogan, un côté hymne qui peut être même repris par le public à des moments dans ce qu'elles font et tout. Et du coup, on trouvait que comme clôture, voilà, de permettre aux mots de circuler une dernière fois par rapport à ces questions-là, c'était chouette, quoi. Et après, les personnes qui font partie des encombrantes, enfin, il y a Amandine, enfin, moi je connais plus Amandine. Qui est aussi auteur et qui participe à, enfin qui organise les ateliers images et écriture, enfin, et du coup c'est des personnes avec qui on travaille, on milite depuis hyper longtemps, et du coup leur permettre de s'exprimer aussi c'est important pour nous, quoi.
Et donc je vous précise, elle a lieu du coup, enfin la fin du festival, elle clôt le festival et c'est le 30 mars prévu pour le 30 mars à 20h au théâtre Massenet.
Non, c'est à la salle des fêtes de film.
D'accord, à la
mais c'est pas très loin.
Merci pour
une. C'est pas très très loin.
Et le nom de la pièce, c'est Je nous tiens debout. Est-ce qu'on a terminé? On fait peut-être un petit récapitulatif du programme, ouais. De quand est-ce qu'il a lieu. Alors, il est prévu. Donc là, il a commencé déjà. Ouais. Depuis le 23 février. Avec la projection de Mutante. Ensuite, il y a une exposition qui est prévue du 8 mars au 31 mars à la Maison Folie Oisem, qui s'appelle Murmurer. Ensuite, il y a une série de spectacles et de performances. Je ne vais peut-être pas faire la liste entière, mais en gros...
De toute façon, vous pouvez la retrouver sur soit le site des Rencontres Féministes, soit sur notre blog via l'agenda qui est en ligne.
Donc, on redonne peut-être les adresses. Le site des Rencontres Féministes, donc...
C'est Rencontres Féministes au pluriel tout attaché. over-blog.org.
Voilà. Et j'enrage, c'est j'enrage tout attaché avec un G, c'est-à-dire genrage.wordpress.com.
Voilà. Ou sinon, si on tape j'enrage, c'est le premier choix maintenant. Donc
sur Google.
Voilà. Exactement. Donc après, sinon, on en était où? Ah oui, bah oui, les spectacles. On va pas tout donner.
Ils ont lieu principalement au théâtre de l'Oiseau Mouche. Et à la Maison Folie Oisem. Ensuite, il y a une série de débats et de rencontres. Débats sur les violences sexistes, débats sur le sexisme dans les médias, une conférence atelier organisée par une chercheuse en études féministes. Il y a une série d'ateliers, chatte à modeler, autodéfense féministe, heure du compte antisexiste, pardon. Et voilà, je ne donne pas toute la liste. Voilà, en tout cas, vous pouvez les retrouver, trouver les informations, comme on vous a dit, sur les deux sites, à la fois des rencontres féministes et sur notre blog. On vous retrouve dans 15 jours
pour une nouvelle émission.
Et merci Sarah d'être venue.
Et merci à vous, c'était fort sympathique.
Salut.
Voilà, de retour après Adam and the Ants, Xerox, c'était la chanson. On passe maintenant à l'agenda. Donc on va juste parler de l'agenda de cette semaine parce qu'il y a énormément de choses qui se passent en ce moment sur l'île. Donc pour commencer ce mardi 5, donc demain, il y a un colloque qui est organisé par l'association des parents gays et lesbiens, donc l'APGL, de 10h à 18h et qui est organisé aussi avec la CNAFEL. C'est un colloque qui va débattre des nouvelles familles dans la société française et qui a lieu à la Maison d'éducation permanente à Lille, 1 place Georges Lyon. Donc un colloque sur les nouvelles familles dans la société française. Mercredi 6, à l'Univers, la projection de We Want Sex Equality à 18h30. Donc un documentaire sur le mouvement féministe. Ce jeudi 7 à 19h à la Maison Folie Oisem, il y a un vernissage de l'exposition Murmurée, l'exposition qui est organisée par le Festival Désordre des Rencontres Féministes. Et il y a une petite performance surprise lors du vernissage. Et enfin, samedi 8, c'est la Journée internationale de la femme. Et comme événement alternatif, Chez Violette organise une marche, place de l'Opéra, qui commence à 14h30, suivie d'un forum qui débattra de la situation des femmes, qui se trouvera salle Courmont à Lille, et qui terminera sur un spectacle de slam de la compagnie des dissolvantes. Donc, grosse semaine. On vous invite à aller sur l'agenda pour plus d'informations. L'agenda que vous pouvez trouver sur jeanrage.wordpress.com et ou sur notre page Facebook, où vous pouvez taper Jeanrage, tout collé G-E-N-R-A-G-E sur Google, et vous tomberez sur le premier choix, la première proposition, c'est le webzine. Donc on vous invite à aller sur l'agenda, à regarder un peu les événements sur l'île dans les semaines à venir, et pour avoir plus d'informations sur ce dont on vient vous parler. Sinon, on vous dit à dans 2 semaines et bonne semaine. Au revoir, salut.
RCV 99 FM.